bonsoir à tous. Des retraités dans la rue aujourd'hui en France et ce matin à Niort pour défendre leur pension. C'est aujourd'hui la journée internationale des personnes en situation de handicap. Les promesses nées des Jeux paralympiques ne se concrétisent pas vraiment. Reportage ensuite à l'école Jean Moulin de Cerizay qui expérimente l'accueil des élèves de moins de 3 ans. Le recteur est venu en personne s'intéresser au dispositif ce matin. Les éco-délégués se retrouvaient aujourd'hui à Bressuire. On verra à qui ils sont et ce qu'ils font. Enfin, Françoise Abadie Malergue dédicace son troisième roman ce vendredi à la librairie Le Fréneau de Bressuire.
Météo à l'issue du journal avec un début de journée sous le soleil demain.
Une revalorisation de la pension de retraite revue à la baisse et échelonnée en deux fois, à plus 0,9% au 1er janvier et plus 0,9% au 1er juillet. C'est l'une des mesures d'économie prévues dans le budget 2025 qui ne passe pas auprès des retraités. Ils étaient mobilisés aujourd'hui partout en France pour réclamer une revalorisation indexée sur l'inflation dès le 1er janvier. Ils étaient 70 à 80 à manifester devant la préfecture de Niort. Écoutez Pascal Fusa, co-secrétaire des retraités FSU en Deux-Sèvres.
On a le sentiment véritablement que les retraités depuis le début sont stigmatisés. Le gouvernement nous a dit dans un premier temps pour réduire les déficits, il fallait un petit peu essayer de cibler les plus riches. Or, on a un sentiment que les seuls riches dans cette affaire-là, ce sont les retraités. Or, on sait très bien que le pouvoir d'achat des retraités ne cesse de diminuer depuis des années. Donc on a véritablement une revendication d'augmentation des pensions et au moins de maintien du pouvoir d'achat. D'après nos calculs, quand on regarde entre 2017 et 2024, la perte de pouvoir d'achat est de plus de 5%, puisque l'évolution des prix a été de 19,5% sur la période et les pensions de 13,6%. Donc ça fait une perte de pouvoir d'achat de plus de 5%. Mais au-delà de ça, il y avait aussi dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale le déremboursement de certains médicaments. Et là, on a l'impression que c'est la double peine, parce qu'on sait très bien, malheureusement, que ce sont les retraités qui, du fait de leur âge, consomment le plus de médicaments.
Et ce matin, à Niort, une délégation de représentants des retraités a été reçue par la préfète.
Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre, journée internationale des personnes en situation de handicap.
Cette journée a pour but de soutenir toutes les personnes en situation de handicap en invitant à se mobiliser autour d'elles. Cet événement est l'occasion de faire la promotion des droits des personnes handicapées tout en participant à favoriser leur inclusion. Marie Zouvrard, chef de projet au sein de l'association APF France Handicap de Sèvres, Charente-Maritime.
C'est une bonne occasion pour nous de dire on n'y est pas quoi en fait. On n'y est pas, on y a cru, on y croit, on y a cru depuis cet été. Hein, je pense qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, on a vu que c'était possible d'accompagner les personnes en situation de handicap pour qu'elles aient une vraie place dans la société. On a pu voir avec les exploits sportifs que ce sont des personnes comme nous. Mais on a pu voir que les transports pouvaient être rendu accessible, que le logement pouvait être rendu accessible. Donc c'est possible. Mais bien écoutez, finalement, depuis quelques mois, on a l'impression de revenir à nouveau dans l'oubli, quoi. Donc cette journée nous permet de nous remettre en lumière et qu'on l'on soit valide ou en situation de handicap, je crois qu'on a les mêmes aspirations, les mêmes attentes. Il faut arrêter de nous considérer en fait comme une catégorie à côté.
À l'occasion de cette journée internationale des personnes en situation de handicap, l'association APF France Handicap a mis en ligne sur son site une pétition de soutien. À Thouars, des personnes tentent actuellement de s'introduire dans les habitations en se présentant comme des agents des services techniques pour contrôler les compteurs de gaz et d'électricité. La ville met en garde les habitants et les invite à faire preuve de vigilance.
À Cerizay, les enfants vont à l'école avant même leurs 3 ans.
Depuis la rentrée de septembre, l'école Jean Moulin accueille des enfants âgés de 2 à 3 ans, une expérimentation unique sur le département des Deux-Sèvres. 15 enfants forment la classe des TPS, très petite section. Carole Decoster-Boyer, inspectrice de l'éducation nationale en charge de la mission maternelle.
Une école, c'est fait pour apprendre. Et donc, on n'est pas sur un mode de garde sans projet pédagogique précis. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux élèves à être prêts à entrer dans les apprentissages de l'école maternelle lorsqu'ils seront en obligation scolaire à 3 ans. L'objectif n'est pas d'anticiper ces apprentissages, mais de permettre de leur apprendre à comprendre ce qu'on va attendre d'eux à l'entrée à l'école maternelle.
Et les premières semaines sont très satisfaisantes selon l'inspectrice qui observe la formation d'un véritable groupe, secondée par son ATSEM Audrey Fuseau. L'enseignant Axel Berthelot, qui est également le directeur de cette école de 150 élèves, mesure de réels progrès chez les enfants.
Oui, ils sont vraiment visibles dans les savoir-être, le fait de prendre les habitudes de classe, découverte du matériel, etc. Également dans le langage qui évolue au fur et à mesure, on enrichit le vocabulaire, la syntaxe évolue petit à petit. Il y a également des grosses améliorations en termes de moteur, que ce soit la motricité fine ou petit à petit ils travaillent sur la motricité de leurs doigts, également sur la motricité globale.
Alors la relation avec les parents, comment ils appréhendent ce fait de laisser les enfants très très jeune.
C'est un travail qui se fait depuis plusieurs mois, bien avant la rentrée. Donc les familles, on a commencé à les rencontrer au mois de mars dernier. Et donc on a pris le temps d'échanger avec eux, de voir leurs attentes de l'école, les besoins, pour qu'ils se sentent en confiance et que les enfants se sentent en confiance également.
Les apprentissages se font essentiellement le matin. Le repas est un temps d'apprentissage dès 11h30. L'après-midi, place à la sieste et à des activités assez libres. Dans un contexte de baisse démographique, le maire Johnny Brosseau a indiqué sa volonté de voir cette expérimentation se pérenniser. Le recteur en visite ce matin dans l'école cerisienne a souligné qu'il s'agissait de répondre à un objectif d'égalité des chances. Frédéric Périssa.
Notre objectif, c'est de pouvoir prendre en charge des enfants dont les familles ne maîtrisent pas forcément la langue française, ne maîtrisent pas forcément les codes de l'école. Et ça nous permet, en les prenant très tôt, avec leur accord bien sûr, de mieux socialiser ces enfants, de les accompagner de manière plus précoce dans la maîtrise du langage, la maîtrise du comportement dans un collectif et faciliter leur scolarisation ultérieure.
Le recteur de l'Académie de Poitiers qui a poursuivi sa visite à Cerizay, à l'école Perrochon, pour visiter la nouvelle unité enseignement élémentaire à autisme. On en reparlera.
Les éco-délégués se retrouvaient aujourd'hui à Bressuire.
Le réseau Éclore avait réuni des dizaines de représentants de chaque établissement, c'est-à-dire la cité Genevois, Signoret, Vinci, le campus des Sicodières, les collèges Supervielle de Bressuire, Clémenceau de Cerizay, Prévert de Montcoutan et Blaise Pascal d'Argentonnet. Encadrés par des référents adultes, des dizaines de jeunes éco-délégués ont participé à des ateliers espaces verts, alimentation et couture. D'autres sont allés faire une clean walk ou visiter la matériothèque. Céline Takenmit, CPE au Collège Clémenceau, est référente du dispositif Éclore.
Un éco-délégué, c'est un élève qui se rend acteur un petit peu de tout ce qui a trait au développement durable dans tous ses états, c'est-à-dire évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'écologie, biodiversité, mais pas que, et aussi tout ce qui concerne le bien-être de l'être humain en général. Donc voilà, ce sont des élèves qui se vont le terre pour s'engager dans des actions qui tournent autour de ce thème-là. Je pense qu'ils vont à peu près tous dans le même sens. Après, ils n'ont pas tous la même maturité, donc les projets ne sont pas tout à fait les mêmes, et c'est la raison pour laquelle on essaye de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent s'inspirer les uns des autres en fonction de leurs projets respectifs.
Les éco-délégués, ce sont donc des élèves volontaires pour développer dans leurs établissements des actions favorables au développement durable. Parmi eux, Hugo et Ronan, élèves du campus des Sicodières, que nous avons interrogés sur le sens de leur engagement.
Pour aider la planète et s'occuper un peu d'elle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui va à l'inverse de l'écologie.
Alors concrètement, comment ça se traduit cet engagement?
Aujourd'hui, moi, j'ai préparé le repas. Et puis ça avait pour but de faire zéro déchet.
Alors pourquoi tu t'es engagé?
Principalement parce que les éco-délégués, c'est principalement pour réduire les déchets au maximum, pour éviter de polluer la planète et puis pour faire le moins de déchets possible, pour s'occuper de notre planète.
La journée de cohésion des éco-délégués du réseau local Éclore, c'était donc aujourd'hui à Bressuire.
Secondigny remporte le trophée village de la reprise 2024.
Pour la 7e année consécutive, la région Nouvelle-Aquitaine organise le mois de la transmission reprise, rendez-vous de référence. chance pour à tous ceux qui souhaitent céder ou reprendre une entreprise implantée sur le territoire de la région. Cette année, dans les Deux-Sèvres, Secondigny a donc été élu village de la reprise lors d'un événement organisé hier en présence notamment des représentants de la Chambre des métiers de l'artisanat. Le prix a été remis au maire de Secondigny, Janie Perronnet.
Françoise Abadie-Malergue publie un nouveau roman.
Elle a vécu près de 40 ans sur Bressuire et vit aujourd'hui en Corrèze, dans la patrie de son mari, le docteur Abadie, vétérinaire aux côtés de celle qui exerçait dans le bocage bressuirais. Elle y reviendra vendredi 6 décembre pour une séance de dédicace à la librairie Le Fresneau. A comme assassin, c'est le titre de ce livre aux éditions de la Vétizou, un polar qui s'intéresse au meurtre de quatre femmes. Ces deux premiers ouvrages étaient également des policiers. C'est le genre qui plaît particulièrement à Françoise Abadie-Malergue.
J'aime ça parce qu'en fait, il y a une recherche psychologique des personnages. J'aime la psychologie et ça allie les deux pour moi. Donc là, dans ce que je décris, mes victimes ont tous une histoire que je raconte. Est-ce qu'elle explique le meurtre ou pas? Ça, je vous laisse le découvrir aussi, évidemment. Mais voilà, ça m'intéresse.
Ce sont vos lectures aussi qui vous amènent vers ce style?
Alors, j'ai lu beaucoup de policiers, mais je lis énormément, je lis beaucoup de choses. Je lis des sagas, je lis des livres politiques, je lis un petit peu tout, en fait. Je suis assez éclectique dans mes lectures.
Éclectique dans ses lectures et étonnante dans sa façon d'écrire, Françoise Abadie-Malergue.
Je suis insomniaque, donc je pense beaucoup la nuit. Mais j'ai un rituel depuis quelques temps. Je vais dans les cafés et c'est là que j'écris. J'adore être dans les cafés pour écrire, ça m'inspire. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ce ne sont pas forcément les gens que je vois ou que je rencontre, non. Je ne sais pas, ça m'aide. Chez moi, j'écris rarement, sauf si j'ai une idée le matin et que je n'ai pas pu la concrétiser au café, je vais le faire l'après-midi. Mais autrement, c'est vraiment le café. Le café aussi, ça m'est arrivé d'être dans les salons de lecture, les salons du livre où j'attendais, entre guillemets, le client, et ben j'écris. Voilà, là, il y a du monde, j'écris, je suis bien. Il faut qu'il y ait du monde autour de moi. Bon, je peux écrire aussi chez moi, mais si j'écris chez moi, il me faut à la fois la télé, la radio, un peu tout. J'ai besoin de bruit. Et je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, ça ne m'est jamais arrivé. En fait, parce que ma vie n'en dépend pas non plus.
N'hésitez pas donc à aller voir Françoise Abadie-Malergue en dédicace à la librairie Le Fresneau, vendredi 6 décembre de 14 à 19h avec son troisième roman A comme assassin. Après Bressuire, elle sera le lendemain à l'espace culturel Leclerc de Parthenay de 10h à 16h. En parlant de dédicace, François Hollande, annoncé initialement ce jeudi à Niort, sera finalement présent le lundi 16 décembre à la librairie des Halles à partir de 17h. Un petit mot de sport, Cholet Basket entame la deuxième phase de la FIBA Eurocup ce soir avec la réception du Portel. Match à 20h30 à la Meilleraie, à vivre sur colline avec Vincent Nori et François Larue.
Quel temps aujourd'hui? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et Fabien, après un mardi plutôt bien ensoleillé.
Demain, mercredi, on démarre également sous un beau soleil, à moins que vous ayez du brouillard. Normalement, il devrait vite se dissiper. Les nuages se développent ensuite l'après-midi. Il reste inoffensif. Très peu de vent ce mercredi, une journée calme. Seulement 2-3 degrés demain matin, 9-10 degrés pour les températures maximales demain après-midi.
Il fait frisquette encore en début de journée. Demain, couvrez-vous bien donc en sortant demain matin. Merci beaucoup Fabien. C'est tout pour l'info près de chez vous ce mardi. Retour demain matin.
Demain matin à 7h avec Patrice Bémanongi. Bonne soirée.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.